Europe Soir.
Europe 1, il est 18h10, la suite du journal François Claus.
Le son de la garde républicaine sur les Champs-Élysées ce matin. Vous y étiez, Sandrine Prioul, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a généralement un caractère un peu rituel, assez convenu dans ce défilé du 14 juillet. Là, on a eu droit quand même à des images inhabituelles.
Oui, vous l'entendiez, cette ferveur sous le soleil au passage de la garde républicaine, puis de la patrouille de France. Quelques 100 000 personnes, parmi lesquelles Gaël et son fils de 3 ans, qui ont cette montée d'émotion en levant les yeux.
C'est génial de voir ça comme ça. C'est différent à la télé. La fumée bleu, blanc, rouge, c'est impressionnant. C'est émouvant, c'est impressionnant. Et regarde, il y en a encore accès. Tu le vois ?
L'émerveillement également devant les troupes américaines à l'honneur pour le centenaire de l'engagement américain en France. Hommage rendu à ses soldats par Donald Trump lui-même quand il se lève pour les saluer avant que n'entrent dans les filets policiers, gendarmes. Alors la foule unanime venue de toute la France lance des merci, bravo, soyez fiers de vous.
J'ai été très très touchée, moi, par les salves d'applaudissements pour les pompiers, pour les CRS, pour les personnes qui sont à leur quotidien. Des gens qui avaient très très à cœur de les prendre en photo et de les filmer. Voilà, moi, ça, c'est ce que j'ai ressenti.
Une Marseillaise aussi a accueilli comme une communion, puis un hymne américain qui semble particulièrement réjouir le président américain, autant que Get Lucky Tube du groupe français, jusque de l'autre côté de l'Atlantique, Daft Punk, qui clôt la cérémonie en fanfare et en apothéose jusqu'à la tribune présidentielle.
Get Lucky, repris par la fanfare, là, juste devant la tribune, là, qui a arraché un immense sourire à Emmanuel Macron. C'était un des moments, effectivement, qu'on retiendra. Et puis, Sandrine, parmi ces images fortes, il y a la dernière de la matinée, une intervention solennelle, totalement inédite pour un président de la République, Emmanuel Macron, sur les Champs-Élysées, dans une tribune, eh bien, va s'adresser à l'ensemble de la France, mais aussi aux pupilles de la nation. Les pupilles, cette institution dont on célèbre cette année le centenaire, qui institue, vous le savez, le soutien de l'État à ceux qui ont perdu les familles de soldats, qui ont perdu l'un des leurs dans le devoir de défense nationale, et puis à qui Emmanuel Macron tenait ce matin à rendre hommage.
Depuis 100 ans, presque jour pour jour, la République prend tous ses enfants sous sa protection. Elle protège et assiste aussi les enfants des déportés et depuis peu les enfants des victimes du terrorisme. Ce sont les pupilles de la nation. Ils sont là, devant moi, et je leur adresse un salut chaleureux. Parce que les ennemis de la France, sur notre sol ou ailleurs dans le monde, vous ont pris un être cher. La France vous doit son soutien constant et durable. Je salue aussi les soldats blessés qui sont venus aujourd'hui, ceux qui sont encore hospitalisés et ceux qui, petit à petit, reviennent à une vie normale. Nous n'ignorions pas la grandeur de votre sacrifice et vous trouverez toujours la patrie à vos côtés dans la conduite de votre vie.
Le discours du président de la République en hommage aux pupilles de la nation ce matin, donc sur les Champs-Élysées. Aude Leroy, vous étiez au cœur du PC de commandement, là où l'on règle cette incroyable mécanique du défilé. Racontez-nous.
Ici, c'est vraiment le royaume des chronos et des radios. D'ailleurs, derrière le micro, le maître des horloges du défilé, le colonel Garnier, donne le top départ.
3, 2, 1, top animation.
Un peu plus tôt, le colonel Garnier, 66 ans, et pour qui c'est le 28e et dernier défilé, reçoit la visite du gouverneur militaire de Paris, le général Leray.
Il est 9h, le défilé se présente très bien. C'est de l'horlogerie fine, c'est une véritable opération militaire, et donc il faut se tenir prêt à réagir à tout canon conforme.
Oui, sauf qu'il y a toujours des imprévus. Le colonel Garnier fait le point.
Il est 11h08, donc on a lancé le début du défilé, tout était en phase. On avait un léger retard pour le départ de la deuxième unité, une minute. Donc on s'est demandé si on n'allait pas décaler le départ du deuxième défilé aérien. Et en fait, l'écart est en train de se rattraper.
On a eu une petite frayeur là ?
Oui, pour le Saint-Chamond, quand il s'est arrêté, effectivement, On a eu un moment de flottement, surtout pour ceux qui n'étaient pas au courant que tout était prévu. Et à ce moment-là, on envisageait pendant le défilé aérien de le dépanner.
Mais le vieux char est reparti et c'est là la magie de cette parade. Il y a des retards, mais personne ne s'en rend compte. Ici, le PC jongle avec les décalages. Le colonel Garnier est satisfait. L'an prochain, il sera derrière sa télé. La meilleure place, assure-t-il, pour admirer le défilé.
Et on a vu un hommage très appuyé, effectivement, du président de la République française et de Donald Trump au général qui organisait ce défilé. Réglage, vous l'avez entendu, à la seconde près, nous disait Aude, notamment pour gérer le balai aérien. Il y a eu celui des hélicoptères de combat dans le ciel de Paris, mais aussi celui des avions de chasse américains et français. Notre reporter, lui, Jean-Sébastien Soldaini, a eu la chance, l'honneur de vivre une sensation assez unique, celle d'être à bord d'un de ces avions de chasse, un Rafale, au-dessus du ciel de Paris, n'est pas prêt d'oublier ses sensations.
Nous entrons dans le sillage bientôt de la patrouille de France qui vient d'allumer ses fumigènes bleu, blanc, rouge. Nous sommes en formation serrée, quatre rafales de l'escadron de chasse Normandie-Niémen. Il y a sur ma gauche le leader qui est en train de donner le tempo à cette escadrille. Voilà, la tour Eiffel est en train de passer sur ma droite, je pourrais presque la toucher du doigt. Ça y est, nous sommes sur les Champs-Élysées. Je vais passer la parole au lieutenant-colonel Mathieu qui est aux commandes de ce Rafale pour savoir un peu quelles sont ses impressions au moment de ce défilé.
Eh bien écoute Jean-Sébastien, c'est superbe. Beaucoup de concentration pour tenir en place. On est à moins de 30 secondes du passage. C'est un vrai plaisir, un honneur de défiler pour la France. Et bien sûr, j'ai une petite pensée pour tous mes amis, tous mes camarades qui bossent tous les jours et aujourd'hui y compris pour la défense de la France. C'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire un petit peu. Mais merci à tous, c'est vraiment fantastique, c'est superbe.
Voilà Jean-Sébastien Soldaini là qui n'est pas prêt d'oublier ce reportage. Ces images très fortes que nous venons de vous relater n'étaient pas sans signification ni politique ni diplomatique. Politique d'abord, sur fond de ces très inhabituelles polémiques entre le pouvoir exécutif et l'institution militaire. Un rappel des épisodes précédents, les propos totalement désabusés du chef d'état-major de l'armée, le général de Villiers, devant la commission de la défense, dénonçant une insupportable baisse des crédits, et une réplique très violente hier soir du président de la République, très dure, face à lui, pour dénoncer ce qu'il n'a pas le droit de faire dans la grande muette, parler. Donc on imaginait que le général de Villiers n'allait pas rester longtemps à son poste. Pourtant, tout à l'heure, chez nos confrères de BFM, le Premier ministre Édouard Philippe, lui, s'est montré moins péremptoire.
Le président de la République indiquait qu'il était chef des armées, qu'il avait pris des engagements et qu'il les tiendrait. Et que tous ceux qui voulaient commenter ou s'exprimer sur ces sujets perdaient peut-être de vue le fait qu'il s'était engagé et qu'il tiendrait ses engagements. Vous savez, je comprends tous les débats, toutes les interrogations, toutes les discussions. Mais s'agissant des armées et s'agissant du chef des armées, quand une consigne est donnée, elle est tenue.
Et compte tenu du rappel à l'ordre qu'a fait le président, est-ce que vous pensez que le chef d'état-major peut rester dans ses fonctions ?
Bien entendu. Je pense que, vous savez, un message, quand il est exprimé par un chef, il est formulé de façon forte et claire et qu'il est reçu.
Alors voilà ce que disait le Premier ministre tout à l'heure. Bonsoir Antonin André.
Bonsoir François.
Vous êtes chef du service politique d'Europe 1. On a quand même le sentiment derrière ce propos de façade que c'est une forme de sursis pour le chef d'état-major de l'armée.
En tout cas, il y a pour le moins une altération du rapport de confiance entre le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République, et le chef d'état-major des armées. Mais ce n'est pas aujourd'hui, 14 juillet, jour de l'hommage de la nation à ses militaires, que le sort du chef d'état-major se jouera. Le 14 juillet marque une trêve. Il ne faut pas s'attendre, par exemple, à une démission aujourd'hui du général Pierre de Villiers. Ce serait contraire au code d'honneur de l'armée, en quelque sorte. Quant au chef de l'État, après le recadrage sévère d'hier, il a appuyé, on l'a dit, dans son adresse à la nation, l'hommage aux militaires, aux pupilles, aux hommes blessés au combat. Une trêve ou un sursis donc. Mais oui, la question de la confiance absolue au plus haut niveau de l'État sur des questions qui touchent à la sécurité nationale, à l'engagement de soldats qui mettent leur vie en jeu est posée. Elle n'est pas réglée. Pierre de Villiers avait été prolongé d'un an à son poste lors de l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. On comprend que rien ne garantit aujourd'hui qu'il ira au terme de sa mission.
Alors Antonin, j'évoquais la force symbolique de ces images. Au-delà de ce fait de politique intérieure, il y a cette incroyable image de la France et de l'Amérique. Alors visiblement pour Donald Trump ce matin, à voir son attitude sur la tribune, Paris est redevenu Paris. Allusion évidemment à ce fameux tweet « Paris n'est plus Paris » qui avait carrément empoisonné au moment où les deux nouveaux présidents arrivaient au pouvoir les relations franco-américaines.
Oui, alors en dehors de la moue dubitative de Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez vu devant la chorégraphie de la fanfare militaire sur les tubes de Daft Punk. Là où
oui, mais il a sifflé un peu après, mais voilà. Sifflé dans le sens à l'américaine.
Et puis il a fini par applaudir. Ouais. Mais c'est vrai que le président président américain est reparti comblé de ce défilé, qu'il a applaudi à plusieurs reprises, qu'il a commenté avec le président français. Il a apprécié l'hommage final du président dans son discours « Rien ne nous séparera jamais ». Son pays, à Donald Trump, lui avait refusé un défilé militaire lors de son investiture en janvier dernier. La France lui en a offert un à sa mesure, après le dîner à la Tour Eiffel, le tombeau de Napoléon. Oui, c'est une belle opération diplomatique. On peut même parler d'une forme de complicité affichée, mais... François, ça ne règle pas tout, loin de là. La participation américaine du financement de la force africaine au Sahel n'est pas réglée. La divergence sur l'accord de Paris sur le climat a été publiquement reléguée. Même la question des relations commerciales entre les deux rives de l'Atlantique a été oubliée. Mais disons que le lien est établi, qu'il est direct et chaleureux. Et ça compte en matière de diplomatie, d'autant que Donald Trump traverse une mauvaise passe. Il est critiqué chez lui en Amérique pour ses relations douteuses avec la Russie pendant la campagne. Il est mal aimé des Européens. Il est reparti, c'est lui de Paris, ça comptera. Et comme à son habitude d'ailleurs... Il l'a mentionné sur son compte Twitter.
Donc confiance entamée, on va le dire, avec le chef d'état-major de l'armée française. Confiance retrouvée avec l'Amérique. Donald. Voilà ce qu'on peut retenir comme leçon également de ce 14 juillet. Au-delà de toutes ces images, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1. Nous allons vous faire vivre toutes les émotions à Nice encore dans la soirée avec le discours d'Emmanuel Macron qu'on attend. Et puis un club de la presse spécial. On va entendre l'autre voix, celle des anti-Trump, Éric Coquerel de la France Insoumise. Et puis l'excellente politologue américaine Amy Green pour décrypter toute cette page. Une courte pause et le reste de l'actualité de ce 14 juillet dans un instant, et notamment la flambée de violence à Jérusalem.
Vous écoutez François Claus, Europe Soir jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe Soir.
18h23 sur Europe 1, la suite du journal avec François Claus.
Et avec cette brusque flambée de violence en Israël et en Palestine, on a appris ce matin, en ce vendredi de grande prière, que deux policiers israéliens avaient été tués par balle à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem, Charles Carrasco.
Oui, et preuve que la situation est grave, François. L'appel conjoint ce soir au calme du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas qui se sont parlé par téléphone. Un événement très rare depuis la suspension des négociations de paix en 2014. Tout a démarré ce matin vers 7h. Trois jeunes assaillants des Arabes israéliens qui sont en fait des descendants de Palestiniens ont ouvert le feu sur des policiers près d'une porte de la vieille ville de Jérusalem. Puis les trois hommes s'enfuient vers la fameuse esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam, où ils ont été abattus par les forces de l'ordre. Au total, deux policiers sont morts et un troisième légèrement blessé. Très vite, les autorités décident de fermer l'esplanade des mosquées, une décision qui provoque la colère de Mohamed Hussein, le grand moufti de Jérusalem, pour qui la prière du vendredi devait être maintenue. Quelques heures plus tard, une unité spéciale de la police israélienne interpelle cette très grande autorité palestinienne pour un interrogatoire. Avant d'être libéré, il y a tout juste quelques minutes, un contexte de tension extrême donc, car c'est la première fois depuis 2000, l'année où explose la deuxième intifada, qu'il n'y aura pas de prière ce soir.
Merci Charles Carrasco pour toutes ces précisions. On note également un attentat en Égypte où deux touristes ukrainiennes ont été poignardées sur une plage par un commando. Dans l'actualité sportive, on retient que Cilic le Croate s'est qualifié pour la finale de Wimbledon et qu'en ce moment même, Federer joue contre Berdic. Nice affrontera l'Ajax, s'il s'agit de football, en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mauvais tirage pour Nice. Il nous reste à voir la météo. Comme vous nous l'aviez promis hier, Valérie Darmon, c'est confirmé, soleil et chaleur reviennent.
Tout à fait, grâce à l'anticyclone des Açores qui se renforce, il repousse nuages et pluies au-delà de nos frontières vers l'est. La journée de demain s'annonce donc chaude et ensoleillée, avec tout juste davantage de nuages entre Lille et Strasbourg. Soleil un peu plus voilé si vous habitez aux frontières et le vent qui faiblit en vallée du Rhône. Dimanche, encore plus chaud, avec toujours du soleil au programme et des températures en hausse. Les passages nuageux resteront un peu plus nombreux près de la Manche, voire jusqu'en région parisienne et jusqu'en Alsace. Du côté des températures, les maximales s'échelonneront de 20 à 26 degrés, jusqu'à 35 entre le Gard et le Var. Les valeurs gagneront en moyenne 3 à 4 degrés durant la journée de demain. Et dimanche, elles se stabiliseront avec une moyenne de 29 au nord et de 32 au sud. 35 de l'Aquitaine jusqu'aux régions méditerranéennes.
Cela devrait se ressentir, Valérie, sur toutes les plages de notre littoral, ou presque.
La Manche n'a pas eu le temps de se réchauffer ou de gagner 1 à 2 petits degrés d'ici la fin de l'été. En conséquence, sous un ciel bleu dès votre déjeuner, sauf peut-être en mer du Nord, il fera entre 20 et 21 entre Dieppe et Perros-Guirec. Dans l'eau, pour les plus courageux, entre 16 en Cotentin et 19 en Calvados. Contraste sensible avec la Méditerranée et les 28 degrés niçois, 32 degrés marseillais et 33 sétois, avec une eau calme entre 20 dans l'Hérault et 24 déjà dans les Alpes-Maritimes. C'est plus agité tout de même en Bouches-du-Rhône et dans le Gard à cause du vent. Enfin, façade atlantique, l'océan est peu agité. La température entre 17 dans le Finistère sud et 21 sur la côte basque, 19 en Vendée, 20 en Charente et sur les plages ensoleillées, entre 25 à La Rochelle en ce samedi et 27 à Mimizan.
Merci Valérie Darmon. Voilà Omblin pour ce premier tour de l'actualité. On va retrouver les informations évidemment à 19h. Puis restez bien à l'écoute, le club de la presse après 19h avec deux invités, le député Éric Coquerel, France Insoumise, et une grande politologue américaine. Et puis dans un instant, nous allons dans l'Ariège pour cette magnifique victoire française dans le Tour de France aujourd'hui.
Oui, le club Tour. Présenté par Axel, mais à tout de suite sur Europe 1.
18h-20h, Europe Soir.